Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je s'encoule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses à ficher la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du 20 juillet 2017, j'en étais à chercher la date, excusez-moi. Bonsoir à toi Laurent, j'espère que tu vas bien.
Bonsoir.
C'est donc la dernière émission pour ce Canu Info du jeudi. Ce soir, nous allons rapidement vous parler un petit peu d'international avec Israël-Palestine. Nous irons au Chili et en Turquie. Nous parlerons de Greenpeace face à la Russie, puis un petit peu de nucléaire. Mais nous allons consacrer une bonne partie de cette émission aux rencontres de la photo d'Arles, puisque nous avons arpenté en long, en large et en travers les allées des différents lieu d'exposition, et on va pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'on a aimé, surtout de ce qu'on a aimé en fait. On va passer beaucoup de temps là-dessus. On n'a pas eu de chance, on n'a pas croisé Monsieur Macron dans
ça s'est joué de peu.
Oui, puisque Monsieur Macron se balade, hein, vous avez certainement entendu ces informations, un peu de partout, et en particulier dans le sud de la France, hein, dans la partie plutôt la deuxième partie du pays. Alors il va sur le Tour de France, mais il va aussi à Arles. Alors il faut savoir que notre ministre de la Culture vient de Arles, puisque c'est la patronne. Je le dis encore au présent, même si elle a filé les clés du bébé d'Actes Sud à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, c'est la patronne d'Actes Sud, l'héritière des éditions Actes Sud. Et donc, pendant qu'elle est ministre, elle a lâché les affaires. Mais donc, Monsieur Macron, accompagné de sa ministre, sont donc allés se balader à Arles, en partie aux rencontres de la photo, mais aussi, paraît-il, est allé prendre un bain de foule sur la place de l'Hôtel de Ville, est allé se balader dans les petites rues d'Arles. Alors nous, c'est très drôle, puisque nous n'avons pas eu la bonne heure, la joie, l'immense plaisir de croiser notre président tant aimé.
Enfin, on a tout fait pour l'éviter.
Voilà. Par contre, on a bien croisé les équipes de sécurité, hommes et femmes, en costume, cravate, chemise, bien repassées, avec les petits écussons montrant bien qu'ils faisaient partie de la sécurité. Oreillettes hein, sur le côté du visage. Flingue aussi, il faut le dire. Armée, en train de faire le tour. Eux aussi ont arpenté ces petites rues avant la venue de notre très cher président. Les barrières étaient en train d'installer. Et puis on a pu surtout entendre les commerçants se demander s'il fallait qu'ils ferment boutique ou pas, puisqu'ils avaient assez peu d'informations eux-mêmes sur exactement à quelle heure tout ça allait se passer, dans quelles conditions, est-ce qu'ils avaient le droit ou pas de rester ouverts, de garder leurs clients et leurs clientes. Donc c'était assez drôle finalement, puis ça faisait causer hein, de savoir si finalement ces gens avaient envie d'accueillir ce tout nouveau président. Donc c'était plutôt marrant, enfin en tout cas nous on y a échappé et on est plutôt contents. Pour commencer, nous allons ouvrir avec ce qui se passe en Israël et Palestine.
Oui, puisque la situation s'est largement dégradée depuis une semaine. Alors on va revenir juste sur un petit incident d'aujourd'hui qui est assez symptomatique, qu'on n'avait pas, qu'on a régulièrement, mais qu'il faut quand même redire pour montrer que le désespoir des Palestiniens est toujours là, puisque un Palestinien aurait tenté, en fait, il a sorti un poignard, enfin un couteau, il aurait tenté de poignarder une soldate près du village de Tekoa, donc un village palestinien. Une soldate israélienne. Vous allez me dire, on est en Cisjordanie, en Palestine. C'est, bah oui, mais c'est une armée d'occupation, Israël. Donc il y a une soldate qui n'a rien à faire là, qui vient occuper la terre des Palestiniens. Et il y a un Palestinien à qui ça n'a pas plu, qui s'est énervé, qui s'est approché d'elle avec un couteau. Bon, il l'a battu tout de suite, bien évidemment. On ne rigole pas avec l'armée d'occupation israélienne. Ça a déclenché quelques petites réactions avec des jets de pierre de la part des Palestiniens. Et puis les forces israéliennes ont réprimé, comme d'habitude, violemment, bien évidemment. Bon, aujourd'hui, c'est pas très important ça, puisqu'il y a toujours ce problème sur l'esplanade des mosquées. Alors, c'est un feuilleton récurrent, hein, puisque tous les ans, ou tous les ans et demi, comme ça, on a à nouveau des tensions auprès de l'esplanade des mosquées. Alors, on rappelle quand même cet imbroglio religieux. Tout le problème vient de la religion. Hein. Si on enlève la religion, l'esplanade des mosquées ne pose plus aucun problème. Hein. Ça, c'est une chose claire. Bon, en attendant de faire disparaître la religion, on a l'esplanade des mosquées. Mosquée, comme son nom l'indique, est un lieu saint de l'islam, avec une mosquée importante, la mosquée Al-Aqsa, qui est gérée par la Jordanie et qui permet aux Palestiniens d'aller prier sur cette mosquée. Bon, jusque-là, c'est ce qui se passe à peu près tous les jours. C'est aussi réclamé par les Juifs, puisque avant la construction de cette mosquée, il y a moult siècles, il y avait une synagogue, il n'y a pas de temple, il y a pas une synagogue, et donc il y a des Juifs qui veulent détruire la mosquée aussi pour reconstruire la version juive de cet édifice religieux. Du coup, à cause de ça, l'État israélien met des gardes qui contrôlent, soi-disant pour protéger les Palestiniens. Ça, c'est le terme officiel. En fait, on se rend compte que c'est très ambigu, la situation, même si, quelque part, ils protègent plutôt les religieux, en tout cas les croyants qui vont prier, puisque pour rentrer il faut réciter une sourate, tout ça, ce qui fait qu'on n'a jamais pu rentrer.
Ouais, parce
qu'on
n'a jamais
fait l'effort d'apprendre une sourate pour aller voir, parce que c'est quand même assez joli, hein, le lieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? A priori, d'après les infos officielles israéliennes, les gardes, donc israéliens, qui protègent, on rappelle, soi-disant les musulmans palestiniens, auraient été agressés, ou ont été agressés, puisqu'il y a une vraie agression quand même, par un palestinien qui serait... alors, c'est les gardes qui sont sur les portes et qui sortaient de l'esplanade des mosquées. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Et suite à ça, Israël a dit, oh, voilà, c'est à cause des musulmans qui viennent prier. Alors, il n'y a pas de preuve directe que les mecs ils soient allés prier et qu'après ils aient sorti un couteau pour attaquer les gardes qui étaient là. Mais bon, on fait ce que Israël aime bien faire, ce qui est interdit dans les conventions internationales, une punition collective. Donc, on va recontrôler, remettre la pression sur les Palestiniens musulmans qui viennent prier dans cette mosquée. Et pour ça, ils ont, alors il y a des brimades, les contrôles comme d'habitude, ça ils ont l'habitude, et ils ont installé des portiques, comme ça se fait un peu partout. Il y en a même dans la gare de Arles aujourd'hui, des portiques inutiles, mais qui sont là pour faire croire qu'on fait de la sécurité. Donc ils ont installé ces portées, ces éléments qui contrôlent le métal, et ça a embrasé un petit peu le Moyen-Orient, enfin en tout cas la Cisjordanie, et surtout Jérusalem-Est. Et depuis, c'est la pagaille. Hein. Ça se bat dans tous les sens. Voilà. Alors, solution, comme d'habitude, il n'y en a pas. Il y a les jusqu'au boutistes israéliens qui disent ouais non, faut laisser ces portiques et il faut être répressif, il faut taper dans le tas, c'est des méchants terroristes. Cette situation-là, on la connaît. Si on fait ça, c'est sûr que ça explose. D'ailleurs, les services de sécurité israéliens, hein, le Shin Bet entre autres, demandent pas ça. Ils demandent qu'on retire les portiques. Non pas qu'ils sont contre le contrôle, mais ils disent que c'est la solution pour calmer le jeu et pour retomber dans une situation, cette fois-ci apaisée, pour qu'enfin on puisse arrêter de se taper dessus. Ils défendent pas les Palestiniens, on connaît le Shin Bet, pas du tout, mais ils savent que c'est la seule solution. Mais du côté des politiques, c'est pas du tout ça. Et aujourd'hui, Benjamin Netanyahu est en visite à Budapest, et il a redit que pour lui, il était hors de question d'enlever les portiques, détecteurs de métaux à l'entrée du mont du Temple ou de l'esplanade des mosquées, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on sent bien qu'il y a un peu deux écoles, même au sein d'Israël. L'extrême droite alliée avec la droite, donc Netanyahou et tous ses amis qui voudraient se débarrasser des Palestiniens et pour qui toute pression sur les Palestiniens est quelque chose de bien, puisque ça, ils espèrent que petit à petit ils vont craquer, ils vont aller vivre ailleurs. Et puis il y a ceux qui sont réalistes, qui connaissent vraiment la situation et qui voudraient que ça se calme, les services de sécurité, les services de renseignement, qui disent non, il faut calmer le jeu. Et puis les gens de gauche, hein, parce qu'il y a aussi des gens de gauche qui disent il faut calmer le jeu, il faut sortir ces portiques et il faut arrêter avec cette répression inutile. C'est le ministre de la Sécurité intérieure qui a notamment dit ça, Gilad Erdan. Le Shin Bet avait dit la même chose. Service de sécurité, service intérieur israélien, service secret. Il y a eu une intervention des États-Unis d'Amérique aussi, qui est allée dans le même sens, qui est assez surprenant, dans le sens de l'apaisement. Et ils ont proposé un compromis, c'est-à-dire d'enlever ces fameux portiques, mais qu'il y ait des détecteurs, comme on a dans les aéroports, les détecteurs à main de métaux, pour les personnes qui auraient un comportement bizarre. Bon, la gueule,
délit facile. C'est le problème, c'est que derrière, c'est quoi le bizarre, quoi?
Et voilà. Ça, eux, ils ont a priori négocié quand même avec les responsables jordaniens. Et ça serait une solution intermédiaire qui pourrait permettre de sortir du conflit. En tout cas, aujourd'hui, c'est jeudi. On est la veille du vendredi. La vendredi, c'est la grande prière pour les musulmans. Donc, qu'a fait Israël aujourd'hui? Ils ont ressorti des troupes dans toute la Cisjordanie et à Jérusalem-Est, histoire soi-disant d'apaiser au cas où, enfin, oui, et puis de gérer au cas où ça se passe mal. On sait que c'est comme en France, hein, plus on sort d'appareils de répression, bah plus de l'autre côté, ça s'énerve. Hein. Donc, c'est pas sûr que ça joue le bon jeu. La solution serait vraiment de retirer ces portiques, quitte à laisser toujours des contrôles de sécurité, puisque ça, bon, pour l'instant, personne l'a demandé. Et ce qui inquiète quand même les Palestiniens, c'est que il y a des nouvelles mesures, c'est que la donne qui existe, le truc actuel qui dit, c'est des responsables jordaniens qui gèrent, donc ils sont neutres, d'ailleurs la Jordanie a un accord de paix avec Israël, qui gère l'esplanade des mosquées, elle n'est accessible sauf cas exceptionnel où il y a quand même des fois des juifs qui y vont, mais ils sont encadrés parce qu'ils ont déjà eu des juifs terroristes, hein, qui ont essayé de tuer les musulmans palestiniens. Mais les Palestiniens ont peur que toutes ces choses qui sont mises en place, le but c'est de remettre en cause tout ça, ce qui leur permettrait plus d'avoir accès à leur lieu de prière. Donc c'est ça aussi qui accentue la situation et la tension. Alors ça a fait réagir aussi Mahmoud Abbas qui était en visite en Chine. Hein, on sait que pour l'instant la Chine elle a pas mal soutenu la Palestine. Ça lui coûte rien hein, de toute façon. Et puis ils ont aucun problème là-dessus parce que de toute façon ils font pas de commerce quasiment avec la Palestine. Personne n'en fait ou très peu. Et ils ont rien à perdre. Du coup ils soutiennent toujours la solution avec deux États dans les frontières 67 avec Jérusalem-Est en capitale de la Palestine. Et donc Mahmoud Abbas, il est tournée, cela doit être la quatrième fois qu'il va voir le dirigeant ô combien autoritaire chinois. Et bah, il est rentré d'urgence hein, hier soir pour essayer de voir, pour faire des réunions, pour essayer de sortir de la crise. Donc voilà, c'est une situation qui est plutôt tendue. Et en parallèle de tout ça, des gens qu'on dit issus de la société civile palestinienne, enfin c'est pas mal d'avocats français et d'avocats palestiniens, qui avaient déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale qui n'est pas reconnue par Israël, mais qui est reconnue par les Palestiniens, l'autorité palestinienne. Parce qu'ils ont déposé une plainte il y a 2 ans pour les 3 motifs qui sont irrespectueux du droit international, qui est la colonisation, le siège de Gaza et l'attaque militaire de Gaza de l'été 2014. Et ça avance pas. Donc là, ils ont remis une couche, ils ont remis la pression, ils sont allés au tribunal pénal international, ils ont ramené des dossiers en disant que, voilà, à un moment, on dépose un dossier, il faut qu'il y ait une juge qui s'en occupe vraiment et qui fasse pas semblant. Parce que là, il y a un semblant de justice. Donc voilà, ça rebouge un petit peu du côté de la justice pénale internationale. Je suis pas sûr que ça serve non plus à grand chose, mais symboliquement, c'est important.
Moi, ça me fait penser à un article que tu as peut-être lu sur le site lié à France 24 qui s'appelle Les Observateurs ou The Observer en anglais. Je vous fais ça de tête. Alors, j'ai plus le titre de l'article nous expliquait qu'il y a donc des camps pour les touristes organisés par des Israéliens, anciens militaires, mais enfin, vous me direz que tout le monde a été militaire en Israël, hommes comme femmes, sauf les ultra-orthodoxes. Qui organise donc des camps d'accueil pour les touristes pour faire comme à la guerre. Et vous avez donc des séances contre des Palestiniens. C'est mis en scène tout ça pour une poignée de dollars, parce que je me souviens plus du tarif, mais c'est pas finalement très très cher, pour une centaine de dollars comme ça. Vous pouvez donc tirer sur du kéfier. Il y a même des versions avec des fausses armes, hein, pour les enfants, parce que sinon il faut être heureusement majeur quand même en situation. Ça serait quand même le comble qu'à 15 ou 16 ans on puisse participer à ce genre de camp pour touristes. Alors il y a d'autres pays, hein, qui font joujou à la guerre, mais là c'est quand même assez particulier dans le cadre d'un conflit entre deux territoires, qu'on puisse avoir ce genre de camp avec des accueils de touristes. Et certains a priori sont même existent même dans les territoires occupés palestiniens. C'est le comble quand même que des gens touristes aillent là-bas pour apprendre finalement à buter du palestinien. Je trouve ça quand même assez incroyable. C'est un site qui est assez intéressant, hein, les observateurs, parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément journalistes, qui peuvent être blogueurs, mais qui sont peut-être aussi des gens comme vous et moi, qui racontent des choses qui passent, ce qui se passe dans leur pays, et souvent c'est assez intéressant. Je vous invite à le consulter régulièrement. Alors on va parler d'une mini avancée, mais ô combien malgré tout ou importante, c'est ce qui se passe au Chili. C'est le Sénat chilien qui, dans la nuit de mercredi, a validé une petite dépénalisation de l'avortement. Alors il y aura que trois cas, hein, c'est ce qu'on appelle l'IVG thérapeutique. C'est si une grossesse est consécutive à un viol, si une grossesse constitue un risque vital pour la femme, et puis s'il y a une malformation du fœtus, c'est-à-dire une non-viabilité du fœtus, eh ben les femmes vont peut-être pouvoir se faire avorter. Alors je dis peut-être parce qu'il faut encore que ça passe par les députés, mais c'est une grande chance d'être validé, hein, tout ça. Alors c'est un travail des militants et des militantes sur place. Donc c'est une petite avancée, mais c'est une avancée tellement importante quand on estime aujourd'hui les avortements clandestins au Chili à 160 000 par an. C'est un chiffre absolument énorme, c'est un chiffre catastrophique, il faut bien l'entendre. C'est un pays ultra conservateur, donc c'est plutôt une petite avancée qui est quand même une belle avancée, parce que c'est un travail de longue haleine, de long terme, et qui est pas fini, puisqu'il va falloir maintenant que l'IVG et l'avortement soient acceptés d'une manière plus large, comme dans d'autres pays, mais voilà, c'est une petite chose dans un pays aussi très patriarcal.
Ah bah, on va aller dans un autre pays ultra réactionnaire, ultra patriarcal, qui est en énorme régression. Hein. Il s'agit de la Turquie. On l'a connu, la Turquie, avec un régime laïque, et on a maintenant la Turquie avec un régime quasi islamique. Dans quelques mois, quelques années, on aura l'équivalent de l'Iran, mais dans la version sunnite, du coup, enfin sunnite, la version turque, on va dire. Donc, je reviens sur la Turquie avec quelques petites infos. D'abord, il y a eu le truc de l'agence officielle Anadolu qui a publié mardi des informations concernant les forces spéciales américaines et françaises présentes en Syrie, qui combattent aux côtés des Kurdes. Donc, ils ont donné des détails avec des villages, le nombre de militaires, leur nationalité par village. Tout ça, c'est quand même très dangereux pour ces militaires-là, et aussi pour les militants kurdes, mais ça, ils s'en foutent, parce qu'ils veulent la mort de tous les Kurdes. Mais il y a quand même un truc pas très réglo d'avoir fait ça. Alors, bien sûr, aujourd'hui, deux jours après, la Turquie dit non, mais c'est pas vrai, ce qui a été révélé, c'est pas vrai, c'est pas ça, tout ça. Si, sauf que on sent bien que le but, c'est de faire la pression, de mettre la pression sur les forces occidentales, alors là, essentiellement la France et les États-Unis, qui interviennent aux côtés des Kurdes dans les combats, le combat contre le régime totalitaire syrien, et que la Turquie, elle veut se débarrasser des Kurdes en priorité, quasiment sur le régime totalitaire syrien que le gouvernement turc ne porte pas non plus dans son cœur. Donc là, ouais, c'est vraiment un truc mal vu, malvenu, très malveillant. Et pourtant, il y a très peu de réactions. Hein, la France a rien fait. Les États-Unis d'Amérique ont quasiment rien fait. C'est la honte totale quand même de laisser la Turquie comme ça faire un peu ce qu'elle veut, balancer des infos sur les combattants kurdes, parce que c'est ça dont il est question et qui est très important quand même. Par contre, il y a un pays qui est en train de réagir, c'est assez surprenant, c'est l'Allemagne qui s'attaque enfin à la Turquie.
Ça s'énerve du côté allemand.
Ouais, alors il faut savoir que l'Allemagne a découvert avec la dernière élection, et c'est une vraie découverte, que les ressortissants turcs qui étaient sur son territoire, on sait qu'il y a une grosse communauté turque en Allemagne, mais les gouvernants, ils avaient l'impression que les Turcs, ils étaient intégrés, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais que, ben voilà, ils étaient devenus plutôt ouverts et démocrates. Et ils se sont rendus compte avec la dernière élection, le vote pour le président maintenant, Erdogan, et ben que l'essentiel des Turcs allemands ont voté pour Erdogan, donc pour un régime répressif, islamique, contre le droit des femmes, contre, alors le droit à l'avortement, on n'en parle pas, hein, ça n'existe pas, contre tout ça, tout ce qui existe en Allemagne, en fait. Et là, je pense que l'Allemagne a pris un coup, et les dirigeants allemands ont pris un coup, en pensant que la communauté turque avait évolué dans un sens démocratique et surtout d'ouverture envers les homos, envers les femmes, envers plein de choses. Et non, ils se sont rendus compte que c'était l'inverse, c'était une communauté qui était ultra réactionnaire. Et ça a commencé à poser des questions. Et puis, à force que la Turquie emmerde tout le monde, et notamment l'Allemagne, là, il y a une grosse réaction. Alors, la réaction, c'est par rapport à un Allemand qui est en taule. Il y en a plusieurs, hein, d'Allemands qui sont en taule. En Turquie. Vous avez vu le film de Alan Parker il y a quelques années.
Ouais,
ça vous donnera une image. Oh, si, je pense.
Ouais,
ceux qui décrivent la prison turque aujourd'hui, ça ressemble.
Oui, mais le film n'est pas très bon.
Oh.
Puis, comment ça datait?
Voilà, ça date, c'est sûr. Il y a le défenseur des droits de l'homme à Istanbul. Maintenant tu m'as coupé, je sais plus ce que j'allais dire. Enfin bon, bref.
C'est des membres d'Amnesty International, hein,
entre
il me semble.
Oui.
Mais je t'ai coupé, du coup, t'arrives plus à retrouver.
Bon, mais c'est pas grave. Bon, c'était juste pour dire que ça continue dans le mauvais sens. Il y a plusieurs Allemands en prison en Turquie, notamment un journaliste qui travaille pour Die Welt, je crois, donc gros journal allemand, ou Bild, peut-être pour Bild, enfin en tout cas un des gros journaux allemands qui est en prison dans les geôles turques et voilà. Alors l'Allemagne a réagi en attaquant la Turquie de deux manières différentes. La première, c'est de dire, et c'est la ministre des Affaires étrangères allemande qui l'a dit, elle a fait un avis officiel en disant attention, aujourd'hui quand vous êtes allemand, aller en Turquie c'est dangereux. Alors, c'est relativement réaliste, hein, puisqu'il y a des Allemands en prison en Turquie. Alors bien sûr, le gouvernement turc n'a pas apprécié. Il faut savoir que c'est la première communauté de touristes, on va dire, en Turquie. Ce sont des Allemands. Et pas que des Turcs d'origine ou des Allemands d'origine turque. Hein. Il y a aussi des Allemands qui vont en Turquie, beaucoup. Et donc, Ankara a réagi. Ils ont mal vécu, c'est Die Welt, d'ailleurs, j'en ai de tout à l'heure. Et ils ont mal vécu ça en disant mais non, vous devez pas dire ça, etc. Bon, ça c'est le premier truc. Et deuxièmement, il y a des menaces de la part de l'Allemagne, notamment des menaces financières pour que la Turquie ne soit plus considérée comme un partenaire privilégié ni de l'Allemagne ni de l'Europe. Alors au niveau de l'Europe, ça va être un peu plus dur à faire passer. Mais il y a des menaces qui sont lancées de la part de l'Allemagne. Alors, faut savoir qu'en Allemagne, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'il y a les élections législatives à la rentrée. Hein, donc, ils peuvent pas non plus trop taper dessus. Pourquoi? Parce que même si la Turquie s'est plaint d'un certain chantage de l'Allemagne, le pays qui fait le chantage aujourd'hui, c'est la Turquie, hein, puisque la Turquie bloque actuellement 2 millions de réfugiés syriens, et que la Turquie a annoncé que si ça se passait mal, ils ouvraient les frontières pour que ça débarque en Europe, et notamment en Allemagne. Hein. Donc, il y a un chantage de la part de la Turquie, et une faiblesse de la réaction de l'Europe. Là, l'Allemagne, c'est la première fois que ça réagit. Peut-être que c'est parce que voilà, il y a des Allemands en prison. L'Allemagne dit qu'officiellement, en tout cas à travers ce qui transparaît dans les journaux, que les Allemands à l'étranger sont des otages, puisque la Turquie a déjà proposé des échanges. Et la Turquie propose des échanges contre qui ? Ben contre soit des gens proches de Gulen, l'ennemi de Erdogan au niveau religieux, soit il y a eu une tentative de demande d'échange avec deux généraux qui se sont barrés suite à la tentative du coup d'État et aux répressions, à la répression qui a été mise en place depuis. Donc c'est la Turquie qui joue une vraie politique d'otage, comme l'État islamique finalement, en mettant en prison des Allemands et en faisant des propositions ensuite à l'Allemagne en disant bon, on vous les rend si vous nous donnez telle ou telle personne. Voilà, on est mal parti quand même avec la Turquie, mais en même temps on laisse faire, hein, aucun pays ne réagit. La Turquie a un partenariat ultra privilégié avec l'Europe. Ça se fait sauter du jour au lendemain, un partenariat ultra privilégié, puisqu'il y a des règles et la Turquie respecte plus du tout ces règles. Mais avec le chantage aux réfugiés, la Turquie continue de s'enfoncer dans la dictature. Et voilà. Et l'Europe a même pas le courage d'aider les Kurdes directement, et pas simplement avec l'armée de l'OTAN ou l'armée française qui va là-bas, ni les opposants d'ailleurs. Il y a quand même une vraie faiblesse de l'Europe vis-à-vis de l'opposition démocrate en Turquie.
Parce que alors moi, du coup, parallèlement, je suis allé regarder ce que le ministère des Affaires étrangères en France recommande aux voyageurs et aux touristes sur la Turquie. Alors rien de différent de ce qui s'était passé l'année dernière avec le coup d'État. Il y a toujours des régions évidemment proches des zones de combat qui sont évidemment déconseillées aux touristes et voyageurs français. Les recommandations, c'est d'être vigilant quand on se balade et d'éviter les lieux proches des commissariats ou des lieux militaires, c'est-à-dire que les lieux qui pourraient être attaqués par exemple par le PKK,
par les Kurdes,
par les Kurdes armés qui mettent des bombes, des voitures piégées, d'être vigilant. Je me suis demandé s'il fallait tourner la tête toutes les 10 secondes à droite et à gauche pour être bien sûr de ce qui se passait autour. Voilà, mais il n'y a rien de plus que ces informations qui étaient déjà là il y a quelques temps sur ce site du ministère des Affaires étrangères français. Alors on va poursuivre avec un retour sur Greenpeace contre la Russie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de cette affaire de l'Arctic Sunrise. Ça commence à dater maintenant. L'Arctic Sunrise, c'est un bateau de Greenpeace qui avait été envoyé dans les eaux internationales pour critiquer la plateforme de Gazprom. C'était en 2013 et les autorités russes avaient estimé que le bateau était dans ses eaux et avait été abordé le bateau de Greenpeace, j'allais dire kidnappé, mais c'était un lapsus presque réel. En tout cas, avait arrêté les 30 membres d'équipage, les avait détenus jusqu'en novembre 2013. Le navire, lui, était resté capturé par les autorités russes jusqu'en juin 2014. Et il faut se souvenir que l'Arctic Sunrise était sous pavillon des Pays-Bas. Affaire donc à la fois associative d'ONG internationales et à la fois diplomatique avec les Pays-Bas. Il y avait eu donc une suite évidemment donnée à tout ça. Greenpeace et les Pays-Bas avaient porté plainte contre la Russie, et on a eu enfin quelques résultats. Alors en 2015, il y avait déjà eu une procédure judiciaire qui avait été initiée par les Pays-Bas. Ils étaient 30, je dis qu'ils étaient 26 hein, précisément, à bord de l'Arctic Sunrise. Ils avaient été arrêtés, il faut s'en souvenir, hein, pour piraterie et hooliganisme, hein, quand même, truc utilisé assez fréquemment hein, par les autorités russes contre les militants. Et donc, il y avait une procédure qui avait été lancée. En 2015, la Cour aux Pays-Bas, la Cour de la Haye, avait rétorqué que la Russie avait manqué à ses ses obligations, qu'elle n'avait pas le droit là, d'arraisonner, de perquisitionner, d'inspecter, d'arrêter et de saisir l'Arctic Sunrise, le bateau de Greenpeace. Et puis ben là, mardi, on a eu un petit peu d'autres informations. Alors c'est en fait un jugement qui date du 10 juillet, mais qui a été rendu public ce mardi. On a pris l'indemnisation qu'elle doit verser la Russie, puisqu'il y a des sous qui doivent permettre de réparer le navire, qui doivent aussi permettre de donner des sous aux membres qui ont été arrêtés à ce moment-là. Alors la Russie est condamnée à verser 5 400 000 euros de dommages et intérêts. Ça, c'est pour Greenpeace. Et puis 740 000 dollars, je crois aussi, ou euros, excusez-moi, aux Pays-Bas. Là, c'est parce que le bateau, je vous le disais au début, était sous pavillon des Pays-Bas. On a eu la réponse de la Russie aujourd'hui. Non. C'est pas normal.
Non, non, c'est une...
Allez tous vous faire voir pour les autorités russes. L'Arctic Sunrise était une menace directe pour la sécurité de la plateforme. Je les cite, ce n'est pas de moi. Bon, on ne sait pas en fait si la Russie va payer ou pas. Pour l'instant, c'est mal engagé, il faut le dire. Mais bon, comme c'est une affaire avec de la diplomatie, une affaire internationale, peut-être que la Russie va sortir les sous-sous. Allez donc savoir, on ne sait jamais. Mais comme quoi, finalement, il faut être patient parce que finalement, les plaintes arrivent à terme et les ONG, les militants arrivent quand même à se faire entendre. Il faut dire que là, il y avait aussi un soutien d'un pays et ça change aussi la donne, il faut le dire.
Allez, une petite info nucléaire avant de passer aux rencontres photo d'Arles. Il y a eu un séisme aujourd'hui au Japon, magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter, ce qui est relativement faible pour le Japon, mais qui serait déjà beaucoup chez nous. On a eu comme info qu'il n'y aurait pas de tsunami, ce qui rassure tout le monde. On rappelle quand même que même si dans les termes officiels c'est le tsunami qui a fait péter la centrale de Fukushima, dans les faits c'est la coupure d'électricité et donc essentiellement le tremblement de terre. Mais c'est un peu les pro-nucléaires qui essayent de faire croire que c'est le tsunami, parce qu'il y a beaucoup moins de tsunamis au Japon que de tremblements de terre. On comprend la donne. Tokyo Electric Power, qui s'appelle TEPCO dans le vrai nom, a dit que tout allait bien dans ces centrales nucléaires pourries. Voilà. Mais bon, il y a quand même de grandes chances que de l'eau radioactive se soit échappée et aille se mettre dans l'océan, puisqu'on sait que les millions de mètres cubes d'eau radioactive sont entreposés de manière pas très sécurisée autour de la centrale. Mais en même temps, c'est pas très grave, puisque officiellement, le président de TEPCO a annoncé qu'ils allaient balancer cette eau radioactive dans l'eau, dans l'océan. Voilà, c'est fait. Alors lui, il dit, mais vous inquiétez pas, il reste plus que du tritium dedans. Le tritium, c'est un isotope de l'hydrogène radioactif. Tout le reste aurait été enlevé par différents traitements. Alors on sait que ça marche pas, il n'y a aucun moyen d'enlever de la radioactivité comme ça, pour l'instant en tout cas, dans de l'eau. Il reste forcément d'autres nucléotides issus de la réaction de fission qui était présente dans la centrale nucléaire. Mais bon, ils savent pas quoi faire de ces 325 tonnes d'eau douce qui sont jetées tous les jours sur la centrale, qui passent dans les sous-sols et qui repompent après derrière. Vous imaginez 325 tonnes d'eau radioactive qu'ils rendent radioactive tous les jours pour refroidir toujours ces centrales de Fukushima qui sont explosées. Et donc, ça s'entasse. 580 réservoirs pour 770 000 tonnes d'eau contaminée, qu'on ne sait pas vraiment décontaminer, contrairement à ce qu'ils disent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout ouvrir en balançant dans l'océan, en disant, c'est pas grave, il y a des milliards de tonnes d'eau dans l'océan. Ça va se répandre. Ça va se diluer. Le problème de la dilution, elle est plus compliquée que ça, dans le nucléaire. Puisqu'en fait, effectivement, dans le volume, on dilue les particules radioactives. Mais on ne les fait pas disparaître. Et par exemple, un truc très très simple, parce que la radioactivité est dangereuse quand on est proche d'une zone, mais elle est beaucoup plus dangereuse quand on avale une particule radioactive. Là, il y a peu d'études dessus, parce que c'est pas souvent ça, parce qu'il y a très peu de gens qui avalent des particules radioactives, heureusement. Mais ce qui se passe, c'est quand on rejette de l'eau radioactive, les poissons vont avoir cette eau radioactive. Ils risquent, en mangeant le plancton, d'attraper du tritium radioactif. Vous allez manger le poisson, enfin les Japonais essentiellement, et ils vont se retrouver avec probablement un peu de tritium radioactif qui se retrouve dans leur corps. Et là, même si c'est faiblement radioactif, la particule faiblement radioactive, mais très très proche d'un organe, elle a un impact énorme. Et ça, c'est pas pris en compte à chaque fois qu'on parle de la radioactivité au global. Il y a eu déjà plusieurs études sur l'impact qu'on sait. Il suffit d'une poussière radioactive dans le corps de quelqu'un pour avoir un impact décuplé par rapport à un environnement juste légèrement radioactif. Donc voilà. Et bon, c'est ce qu'est en train de nous préparer cette escroquerie qu'on appelle TEPCO, qui gère ces centrales nucléaires plus ou moins bien. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont créé.
Voilà. Alors on va parler des rencontres d'Arles. Je vais donner une petite précision sur ce que je disais en introduction sur la visite de Monsieur Macron à Arles. Monsieur Macron est allé voir en fait deux expositions dans le cadre de ses rencontres de la photographie de Arles. Il est allé voir dans une salle à côté de l'hôtel de ville, déjà pour commencer, une exposition dont on va parler un peu plus tard, Looking for Lenin.
Ah non, il n'est pas allé voir
Looking for Lenin. Et puis il est allé évidemment sur un autre lieu important et emblématique actuellement à Arles. C'est sur le site de la Fondation Luma, le site de cette très riche collectionneuse qui s'installe à Arles, en développement, enfin qui s'installe, qui est de Arles, mais qui s'installe sur les ateliers de la SNCF. On vous avait raconté ça, ça a causé quelques soucis parce que c'était les lieux occupés jusqu'à présent par le festival de photos.
Qu'elle a racheté en grande partie.
Et elle est en train de construire une tour, et donc M. Macron est allé visiter aussi cette exposition, une exposition Annie Leibovitch dont nous allons parler aussi. Et on va commencer d'ailleurs par vous parler de deux femmes photographes, Annie Leibovitch et Paz Errázuriz, sans l'accent, deux tours en fait de leur travail jusqu'à présent. Elles continuent à travailler toutes les deux. L'une est beaucoup plus connue que l'autre par ses portraits de personnages célèbres.
Tu veux dire Annie Leibovitch ?
Oui, mais moi j'ai découvert une photographe chilienne que je ne connaissais pas. On a tous des manques dans notre culture, je dois vous l'avouer. Paz Errázuriz. Alors si vous voulez chercher sur son site internet ou par exemple des informations sur le site du Jeu de Paume qui édite son, enfin qui propose son ouvrage en langue anglaise, ça s'écrit E-2-R-A-Z-U-R-I-Z. Son exposition s'appelle Une poétique de l'humain et c'est aux ateliers de la mécanique. Oui, Arles, effectivement. Dans le cadre de cette rétrospective, il faut savoir que cette photographe, elle est à la base institutrice. Et puis, elle a récupéré un appareil photo et elle commence à prendre ses élèves en photo. Les parents commencent à lui les acheter. Et là, elle décide de devenir photographe. Et il faut dire que à ce moment-là, il y a un événement au Chili qui va lui faire prendre aussi cette décision. C'est le coup d'État avec l'arrivée de Pinochet.
Et l'assassinat de Salvador Allende.
Exactement, l'arrivée de Pinochet au pouvoir. Oui, la mort, l'assassinat, l'exécution. Paz Errázuriz va commencer en fait une carrière photographe, du coup, sans avoir jamais appris la photo, avec un appareil d'occasion. Elle explique dans un article que j'ai lu qu'elle a eu son premier appareil neuf dans les années 80. Alors oui, on peut avoir du très bon matériel d'occasion, mais c'est un peu comme quand on est musicien ou musicienne, il y a un moment, avoir son appareil à soi, son instrument à soi, c'est quelque chose de fort. Et donc, elle a mis beaucoup de temps avant d'avoir son propre appareil. Elle est la cofondatrice de l'Association des photographes indépendants au Chili. Et c'est donc ce coup d'État qui va finalement marquer son travail. Elle va commencer avec de la photographie noir et blanc. Elle fait un petit peu de couleur ces dernières années, mais c'est très très rare. Et elle fait des couleurs, des photos couleurs dans les années 80-90, mais simplement parce qu'elle ne trouvait plus de noir et blanc. Si elle a décidé de faire du noir et blanc au départ, c'est pas pour une question artistique, c'est qu'en fait elle voulait développer elle-même parce qu'il y avait la dictature, que ça lui permettait de contrôler son travail et qu'elle savait pas qui pouvait regarder son travail en donnant à d'autres le développement couleur.
Voilà, à savoir que pour développer les pellicules noir et blanc, ça se fait chez soi, c'est super facile, il y a aucun souci.
Dis celui qui fait de la photo.
Ouais, non, mais c'est très très facile à faire. Le développement couleur, c'est plus compliqué parce qu'il faut être dans le noir total tout le temps. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Il y a pas de lumière rouge, tout ça. Donc effectivement, on comprend son choix, qui est un choix technologique, mais qui a aussi un choix esthétique du coup.
Oui. Alors bon, il faut savoir que sur l'exposition, on a des tirages numériques.
C'est un peu moitié-moitié, il y a quelques tirages argentiques d'origine.
D'époque, qui sont très très beaux.
Et une bonne partie sont des tirages numériques à partir des scans des négatifs. Bon, on perd un peu toujours sur le numérique, c'est beaucoup plus net, on n'a pas le grain, Mais c'est un petit peu dommage, c'est le seul défaut un peu de l'expo, mais les tirages sont très beaux quand même.
Oui, oui, c'est très beau. Alors, si ça s'appelle une poétique de l'humain, c'est parce qu'il y a beaucoup de tendresse dans son travail. Alors, le travail sur le coup d'État, tout ça, ça va très vite. Hein. La répression, elle est finalement la même partout. Par contre, c'est une portraitiste. Elle a, par exemple, travaillé sur ce qu'elle a appelé très gentiment les dormeurs, c'est-à-dire des gens qui ont l'air d'avoir bien, bien picolé et qui dorment sur les bancs publics, en fait, hein, ce qu'on pourrait appeler des ivrognes. Ça, c'est dans la fin. C'est 1979, ce travail-là. Elle va aussi s'intéresser aux artistes de cirque, aux boxeurs, aux catcheurs. Vous savez, ces hommes avec leur masque sur le visage et leurs gros bras de catcheurs. Hein. Donc, elle va aussi travailler sur ça. Elle va travailler sur les couples de malades mentaux dans les hôpitaux.
Oui, alors, c'est une vision, parce qu'on connaît tous, ben, avec Depardon notamment, ce qui se passe, enfin, la vision qu'on peut avoir en noir et blanc notamment, d'un asile de fous, hein, on appelait ça comme ça avant. Elle a fait le même travail, c'est-à-dire qu'elle va dans un asile et elle décide non pas de montrer le côté glauque, elle décide de montrer, d'essayer de choper les moments où il se passe quelque chose entre eux, de la tendresse, de l'affection, et elle met ça en avant, et du coup ça c'est assez surprenant et c'est très beau.
C'est très très beau. Elle va s'intéresser aussi, elle a beaucoup beaucoup travaillé auprès des prostituées, des travestis, donc là aussi ça donne quelque chose de très doux, de très tendre, même si les photos
au
Pérou, là en couleur, ouais, avec les prostituées, là par contre on est dans la couleur, hein, les choses beaucoup plus sordides, et, on est dans plus de brutalité. Mais par exemple dans la série La Pomme d'Adam, c'est une série qui date des années 80, entre 83 et 88, elle est auprès de ces travestis, c'est des photos qui sont absolument magnifiques. Elle va photographier des personnes en train de se maquiller, de s'habiller, de se préparer à la scène. C'est très très beau. Et puis elle a aussi eu finalement une répercussion, puisque quand elle a aussi été dans un hôpital psychiatrique où on voit ses corps de vieux, de vieilles, déjà à la base, ben voilà, il y a aucune vulgarité dans cette photographie, mais par contre là on y voit aussi de la douleur et de la brutalité, mais qui est due à l'hôpital et à la manière dont les médecins et le personnel accompagnaient, encadraient ces personnes dans cet hôpital. Et là son travail fait réagir l'hôpital, et les choses ont changé en interne.
Ouais. En fait c'est surtout les scènes sur les douches.
Ouais, c'est très dur. C'est crade.
Ouais, c'est crade, c'est des douches.
Les gens sont entachés.
Des douches collectives.
Il y a les grilles.
C'est que des femmes, hein, là, pour le coup. Très, très vieilles, souvent. Et c'est très glauque. C'est horrible.
Et c'est pas le corps, hein, qui est glauque, c'est la situation.
Non, c'est la situation. Et justement, et donc, a priori, l'hôpital aurait amélioré les choses sur les douches. Bon, ça sert toujours un petit peu à ça. C'est aussi pour. Du coup, elle désacralise le corps, la nudité. Ça, c'est toujours pas mal. Voilà. Puis après, elle fait un travail qui est bien. Elle n'est pas du tout connue, quand même, cette femme.
Alors, ça fait quelques années qu'elle fait un petit peu parler d'elle, même en France, mais même dans son pays, hein, c'est ces dernières années dans lesquelles elle a une certaine consécration. Elle a un site internet qui est en espagnol, hein, donc je vous laisse aller voir, mais on trouve pas mal d'infos sur elle. Donc voilà, on vous invite vraiment à aller voir son travail aux ateliers de la mécanique. Et donc une autre femme photographe qu'on va mettre avec lesquelles on a envie de commencer, parce que c'est une vraie aussi rétrospective, c'est le travail d'Annie Leibovitch, qu'on connaît aujourd'hui pour son travail de portraitiste des stars que nous on n'aime pas trop.
Ouais, après
moi je suis pas fan.
C'est quelqu'un qui a bossé pour Rolling Stone, donc
mais c'est surtout ça,
un gros magazine aux États-Unis.
Ça c'est ça que montre cette exposition. Ça s'appelle Archive Project 1970-1983, The Early Years, et effectivement elle commence à travailler avec Rolling Stone, et on a ces photos qui sont déjà, moi je trouve l'accrochage est très très beau. On a un accrochage de photos entre des cordelettes qui sont mises non pas dans des cadres mais derrière des vitres de plein pied, ce qui fait qu'on a un accrochage avec du petit format qui ensuite va être agrandi en un plus grand format sur la même photo, et c'est une histoire des États-Unis d'Amérique à travers la politique et la musique. Oui. Le travail que faisait Rolling Stone à l'époque.
Et fait toujours Rolling Stone.
Oui, ça a beaucoup, beaucoup changé, mais ça c'est mon avis. C'est des clichés de jeunesse, hein, il faut le dire aussi, mais c'est absolument fantastique de revoir à la fois une autre époque, puisqu'elle
a beaucoup d'années 70.
Ah Ah oui, et puis même il y a les années 60, hein, parce qu'elle a suivi aussi, par exemple, les campagnes présidentielles. Alors il y a Nixon.
Et puis les manifs et la lutte contre la guerre du Vietnam.
Donc il y a cette partie-là qui est très politique, mais on voit aussi après, évidemment, tout ces, cette manière qu'elle a de photographier la scène rock'n'roll avec des personnages, évidemment, qu'on connaît tous. Hein,
Elle a suivi, a priori, plusieurs tournées des Rolling Stones, et il y a deux grosses expos sur les sur deux tournées des Rolling Stones, donc là elle les suit au jour le jour, et voilà, il y a beaucoup de photos voilà du derrière la scène, hein, des Stones quand ils
c'est
sont
quand ils sont fatigués, parfois à moitié cramés
quand ils attendent, parce que
on passe son temps à attendre quand on est dans des loges.
Et puis après il y a effectivement tous les artistes qu'elle a pu prendre en photo et
dans leur intimité, pas forcément avec la scène, mais aussi dans leur quotidien scène, parce que finalement on sent aussi qu'il y a du réseau derrière tout ça. Il y a un parallèle justement entre la côte Est et la côte Ouest au niveau aussi de la vie aux États-Unis d'Amérique, et elle a un réseau aussi assez particulier, donc elle a rencontré des gens qui lui en ont fait rencontrer d'autres, et c'est aussi ça, c'est comment elle va photographier Peter Fonda assis dans un coin, ou quand il sort de prison par exemple, et ainsi de suite. Donc c'est aussi une intimité dans laquelle elle est rentrée, et c'est aussi intéressant pour ça, c'est que avant de son travail de portraitiste aujourd'hui, avec qui sont davantage une mise en scène, il y a ce travail simplement d'approche du quotidien, quand les Rolling Stones aussi vont enregistrer et qui se retrouvent là avec pas vraiment habillé, pas fait pour la scène, pas fait pour être présenté. Beaucoup de ces photos n'ont jamais été publiées dans Rolling Stone, et sont, c'est aussi l'occasion de les voir en France.
Ouais. C'est publié en livre, hein, bien évidemment, parce qu'il y a une grosse partie de l'expo qui existe sur un livre. Après, c'est un travail ultra classique de quelqu'un qui bosse dans un journal qui fait de la politique et de la musique. Je veux dire, il n'y a aucune surprise là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que nous, il y a un côté exotique, parce que quand elle suit les campagnes américaines, dans les années 70 notamment, mais c'est toujours pareil aux États-Unis, il y a un côté folklore dans les meetings.
Les photos, beer free, par exemple, sur une des photos, bière gratuite.
Ouais. Voilà, les mecs, ils font un meeting, et pour attirer du monde, la bière est gratuite, quoi. C'est en gros sur l'affiche, quoi. C'est énorme. Et puis, il y a tout le décorum, parce qu'ils sont tous déguisés, ils ont des grosses affiches avec qui vont faire signer. Vous imaginez, vous avez un truc avec Sarkozy, vous faites signer Sarkozy, bon, pas Sarkozy, bon, ok. Mais bon, voilà, enfin, nous, on n'a pas ce rapport-là avec les hommes. Peut-être qu'il y a des Français qui l'ont, ceci dit. Hein. Mais c'est moins développé que
on a moins le côté spectacle, si aujourd'hui ça se développe, c'est quand même moins
pas. Et puis, il y a tout derrière, chose, ouais. Parce que comme elle reste et qu'elle est journaliste, on les voit attendre, en fait, quand il y a un résultat, ils sont là, ils sont. Eux aussi, comme les Stones, ils ont des têtes de mecs fatigués, ils attendent les résultats, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, ben voilà, elle suit tout ça, et c'est une belle histoire de l'Amérique un peu à travers son regard à elle, et aussi à travers sa famille, puisqu'il y a deux, trois endroits où on voit sa famille, du coup on voit notamment une grand-mère qui doit être sa grand-mère, la mamie Leibovitch, jusqu'à son enterrement d'ailleurs, voit, et c'est marrant qu'ils aient interposé comme ça au milieu des parties avec une vingtaine.
Alors c'est elle qui a construit son exposition, c'est bien de lui avoir donné la main.
Des photos de sa famille, des gens de sa famille.
Alors, on précisera que donc c'est une exposition qu'on peut voir à la Grande Halle, qui est maintenant à la Fondation Luma. C'est-à-dire que c'est un programme associé aux rencontres d'Arles. Vous savez, quand on parle de programme associé, ça veut dire que c'est accolé. Ce qui veut dire qu'en fait, en termes de tarification, si vous avez par exemple un pass pour plusieurs jours ou un pass pour la journée, vous allez payer un supplément. C'est ça que ça induit aussi, le programme associé.
Oui, c'est dommage, mais bon.
C'est dommage parce que c'est une des expos importantes, finalement, dans le cadre de ce festival, et qu'il y ait cette espèce de bisbille, c'est toujours embêtant. Mais en tout cas, on s'en fiche un peu, nous. Voilà, le travail de Annie Leibovitch est là et c'est aussi très intéressant. Alors, on a vu d'autres choses. Je ne sais pas dans quel sens tu veux le faire, mais je parlais par exemple de Looking for Lenin tout à l'heure.
Du coup, Monsieur Macron est allé voir ça. Alors, il y a plein d'expos politiques, on en parlera après. Il n'est pas allé voir les expos
politiques. C'est une exposition politique, Looking for Lenin.
Oui, c'est politique, mais c'est décalé, c'est un petit côté suranné, c'est un petit côté revanchard avec le communisme, ce qui lui va bien, finalement.
Alors, c'est deux photographes, hein, Nils Ackermann et Sébastien Gobert, qui vont en Ukraine. Ils y vivent maintenant, ils sont pas ukrainiens tous les deux. C'est à voir au cloître Sainte-Trophine, et c'est intéressant, puisque ce sont de belles photos couleurs, en grand format, accompagné de petits panneaux explicatifs avec des commentaires en fait.
Ouais, des gens qui, quand ils prenaient des photos, donc ils cherchaient toutes les traces.
Alors oui, looking
de
for
statues
Lénine,
de Lénine.
On pourrait traduire ça par à la recherche de Lénine.
Voilà. Donc ils cherchent les statues parce que dans la décommunisation, notamment avec les événements du Donbass là, où il y a eu un coup d'accélérateur sur il faut enlever toutes les traces du communisme. Il y a une sorte de révisionnisme hein, qui s'est fait dans ces pays-là. C'est leur choix. C'est un peu bizarre de supprimer aussi les traces du passé, alors que le passé, même si c'est négatif, ça fait partie du truc.
Enfin, il y avait une statue dans chaque village, et comme il y a beaucoup de villages en Ukraine, forcément, ça faisait beaucoup. Alors, je ne sais plus le nom parce qu'ils le donnaient, mais c'est impressionnant.
C'est 25 000, je crois.
Je me souviens plus de.
Du coup, les photographes, ils cherchent là où il reste des traces. Alors, soit les statues sont décapitées, soit les gens les ont récupérées dans leur jardin, les ont peints, les ont. Enfin voilà, ils cherchent toutes les traces comme ça de ces fameuses statue de Lénine.
Pour être tout à fait précis, c'est Nils Ackermann qui est photographe, Sébastien Gobert, lui, c'est le journaliste. Et donc c'est un travail vraiment à deux, c'est un duo, très intéressant. Il y a un livre qui existe, dans le livre il y en a 70, ils ont une centaine de photos en tout, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'exposition, mais qui se suffit. C'est très très bien, et comme tu le dis, effectivement, alors il y a la tête qui va être au fin fond d'un hangar, celle qui est remisée au fin fond du musée, celle qui est transformé en clown dans le jardin d'une famille, ceux qui sont carrément à l'abandon au niveau des bustes, des têtes, de toutes ces statues. Et c'est Lénine, finalement, c'est aussi une histoire d'un pays. Et les petits commentaires, les petits cartons qui accompagnent ces photos sont vraiment très intéressants, parce qu'il y a ceux et celles qui pensent qu'il faut garder ces statues, parfois parce que eux-mêmes sont communistes, ou parce que les gens veulent conserver une histoire.
Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communistes, du coup, mais dans ceux qui disent, c'est pourquoi on effacerait cette histoire? On a vécu avec ça pendant très longtemps. Il n'y a pas de raison qu'on efface
sauf
toutes les traces.
Que, comme dit un des cartons, par exemple, on nous a dit que la statue, elle avait toujours été là. Sauf que quand il y a eu des recherches, elle date des années 70, donc elle n'a jamais tout été là. Et puis, c'est une occupation quand même de l'espace et de l'esprit que certains ont envie de jeter.
Non, mais.
Et d'autres, qui estiment qu'il faut le jeter.
C'est compréhensible. En France, je vais reciter juste un exemple. On avait des rues du maréchal Pétain partout. Il en reste une en France, dans un endroit. De partout d'ailleurs, on les a enlevées. Et ça reste plutôt positif d'enlever ces rues qui étaient, des rues maréchal Pétain. Non, on n'en veut pas. Donc,
pour les nationalistes, d'ailleurs, c'est marrant parce que certains sont remis avec, certaines des statues de Lénine sont coloriées, je vais dire ça, peinturlurées avec les habits traditionnels ukrainiens. Et là, on a les nationalistes qui sont intervenus. Il y a aussi des vidéos qui accompagnent l'exposition et qui permettent de revivre certains moments où les statues ont été traînées à coups de corde, cassées, où la tête a été arrachée, s'est déboîtée. C'est un travail qui est très très intéressant. Ils ont donné une très longue interview à Vice, le magazine. C'est intéressant de les relire après l'exposition, et ça permet de mieux comprendre aussi leur travail. Parce qu'ils se rendent compte aussi que leur travail peut être récupéré par un bord comme par un autre, et qu'ils n'ont pas envie de ça, mais qu'ils en sont bien conscients que les nationalistes comme les communistes pourraient récupérer leur travail pour en faire une propagande, et ça fait aussi partie du jeu, même si pour eux ça sera un désastre, mais c'est comme ça. Avant d'attaquer le politique, moi j'avais envie de revenir sur le travail de Michael Wolfs. C'est un photographe allemand. On a adoré, il faut le dire, ses expositions, puisque c'est un travail multiple qui est présenté à l'église des Frères Prêcheurs. Ça s'appelle La vie dans les villes, et nous on a beaucoup aimé ces grandes photographies de la série Architecture of Dawn City, des photos en grand format accrochées de plein pied au milieu de l'église des Frères Prêcheurs, des photos faites à Hong Kong.
Ouais, c'est des gros plans des immeubles. Du coup, on voit pas la forme de l'immeuble.
On voit pas le ciel.
Ni le haut, ni le bas, on a des gros plans avec des immeubles où on a 4000 fenêtres, tout se ressemble. Entre les immeubles, il y a que les couleurs qui changent des fois, la forme est la même. Enfin, il y a une espèce de truc extrême qui existe dans cette ville de Hong Kong. Et il a fait des super photos qui montrent cette extrême densité de population, finalement, juste à travers des plans d'immeubles, des gros plans, mais c'est des gros plans on va pas sur 5 fenêtres, c'est un gros plan, on a 5000 fenêtres.
Alors on a compté un moment, on était arrivé à je sais plus 40 étages, un truc comme ça sur une des photos.
Mais c'est toutes les mêmes.
Et c'est parfois, il y a un petit élément qui sur une des fenêtres, qui va nous rappeler qu'il y a
des gens qui vivent dedans.
L'être humain derrière, c'est-à-dire, ça va être une peluche qui, un seul coup, est un jaune éclatant. Ça, voilà, parce que même les habits, finalement, on a les habits qui sont en train de sécher, qui pendent. Finalement, ils sont là assez d'une manière récurrente tout au long de ces photos. Donc même l'habit n'est rien. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier pour qu'on se dise, ah oui, là, il y a quelqu'un qui habite, qui est différent que la personne qui habite 3 étages plus bas ou plus haut. C'est une photographie couleur vraiment très très chouette. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les cités, sur la ville, qui a travaillé à Hong Kong, à Tokyo ou à Chicago. À chaque fois, découvre quelque chose de nouveau aussi dans ces villes. Par exemple, le travail de Chicago, là, c'est une surface, c'est très vitré.
Il cherche la transparence, effectivement. Donc, aux États-Unis.
Voilà, et là, on a l'être humain derrière.
Voilà, c'est beaucoup plus transparent, alors que dans les immeubles de Hong Kong, on voit rien. On voit que des photos, on voit que des fenêtres, on voit pas les gens. Alors que là, c'est l'inverse à Chicago, quand il prend les photos, dans les 3/4 des fenêtres, il n'y a pas de rideau et on voit les gens à l'intérieur. Quoi. C'est un transport. Et puis il y a surtout l'installation.
L'installation de départ, Made in China.
Oui, là, il est parti.
Du grand format.
Voilà. Ouais. Alors là, c'est une installation qui est immense. Hein. Il y a, je sais pas, 4 ou 5 photos de travailleuses chinoises qui fabriquent les jouets pour les bambins occidentaux. Et ces photos sont entourées de millions, non peut-être pas de millions, mais de dizaines de milliers de jouets qui ont été collés, fabriqués. Tout ça en Chine, en plastique, bien évidemment.
On s'est demandé, c'était quoi la première pièce qu'il avait posée pour commencer son installation.
Donc c'est impressionnant parce qu'au départ, on voit que ces jouets collés. Et puis après, on voit, ah non, mais il y a des trous au milieu, on voit des photos. Et on voit les photos des travailleuses. Et c'est une bonne mise en abyme de la mondialisation et du tout plastique pour les jouets jetables. Hein, c'est que des jouets
voir
jetables.
Voir ces ouvrières en train d'assembler les bras de poupées dizaine après dizaine, c'est assez impressionnant. Il y a un moment, il y a une photo avec des canards aussi, les petits canards jaunes là. Ces expositions, puisqu'il y en a plusieurs dans le même lieu, c'est à l'église des frères Prêcheur, Michael Wolff, donc vraiment un photographe très très intéressant que nous on a beaucoup aimé. Et puis avant de parler de Monsanto, de Fukushima, moi j'aimerais quand même parler de celui qui fait la couverture de l'affiche de ces rencontres 2017, c'est Karl-Heinz Weinberger, je suis pas sûr. Il est suisse. À la base, il est manutentionnaire chez Siemens. Et puis il a un petit appareil et puis il commence à faire un petit peu de la photo. Son exposition elle s'appelle Swiss Rebels. C'est une rétrospective inédite. C'est le parcours d'un photographe autodidacte et très particulier. Alors aujourd'hui, il a 85 ans, je crois, quelque chose comme
ça. En fait, il aime les jeunes rebelles. C'est un peu ça le truc.
Ouais. Alors au début, il commence son travail en tant qu'amateur. Hein, c'est ça qui est vraiment dingue. Il faut pas oublier qu'il est vraiment un manutentionnaire à Siemens. En allant photographier les travailleurs du bâtiment dans la rue. C'est une autre époque. Hein, qui travaillent torse nu, qui sont en short, limite en espadrille, avec la petite casquette. Ça donne des photos assez érotiques, il faut le dire.
Non, mais c'est hyper
gay. Tu peux le dire.
Gay.
Tu cherches les mots. Vas-y, franchement.
Typiquement dans l'iconographie gay. Et moi, sur les premières photos, j'ai dit.
Ah, la photo ISO est absolument magnifique.
C'est énorme. J'ai dit, c'est vraiment de l'iconographie gay traditionnelle.
Mais d'ailleurs.
En fait, alors, on sait qu'on apprend après, dans l'expo, qu'il est lui-même homo, mais ça, on ne le savait pas au départ.
Il va travailler pour un journal qui est assez confidentiel parce qu'il ne se vend que sur abonnement, qui est un journal gay dans lequel il va produire des photos et vendre ses photos.
Alors que les gens qui photographient ne sont pas gays.
Non, mais il arrive à y mettre une touche d'érotisme qui n'est pas que gay, cet érotisme, hein, parce que je pense que un certain nombre d'hétérosexuels peuvent y être tout à fait sensibles
face
à ces hommes.
Mais quand même, il y a des trucs assez flagrants.
Mais c'est quand même, il est reconnu aujourd'hui aussi comme tel. C'est-à-dire que ses photos sont recherchées aussi aujourd'hui comme tel. Et puis il va s'intéresser, on est toujours en Suisse, assez rebelles, ce qu'on appellerait des loupards, parce qu'à l'époque on appelait ça comme ça.
Au début, c'est les années 60, donc
c'est les années 60. Il y a quelques filles sur ces photos, mais il va aller chercher justement ces jeunes, et en particulier ces garçons, qui se trimballent avec des maillots de bain léopard face à une société très conservatrice. Et eux vont à côté, dans la forêt, à côté d'un lac, se balader à moitié à poil, et ils sont heureux de cette liberté. Et puis c'est l'époque, cette apparition de ce qu'on appelait avant le blue jean. Et c'est ça que va aussi photographier Karl-Heinz Weinberger. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi Elvis Presley, comment ça arrive aussi
ça, on est dans
cette jeunesse, avec le Blue Jim, comment il est remanié aussi, hein, parce qu'on a cette fermeture éclair qui est mise aussi avec de la ficelle, et qui a quelque chose d'assez érotique aussi, je dois le dire, avec ses grosses ceintures hein, autour de la taille, ses coiffures absolument incroyables. Et de ce travail-là, on va aller ensuite avec les motards, les clubs de motards. Donc là, on est moins sur l'érotisme, parce qu'il nous les photographie un peu différemment.
Cuir un peu...
Un petit peu. Mais il va nous les photographier aussi bourrés, coincés, ivres, entre toutes les cadavres de bouteilles de bière vides. Mais voilà, il va s'intéresser aussi à une autre jeunesse, et lui-même étant marginalisé par sa sexualité et ses amours, va aussi rencontrer ceux et celles qui sont différents dans la société suisse. Et donc ça donne cette exposition Swiss Rebels, que moi j'ai beaucoup aimé, je dois le dire.
Ouais, c'est pas mal.
Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir mis ce photographe amateur de se servir d'une de ces photos comme couverture et image de cette représentation des rencontres 2017.
Bah moi, je vais parler un peu politique, parce que, alors, à Arles, on n'a pas fait trop de photos d'art, il y en a un petit peu, mais c'est...
Bah, tu veux dire qu'on n'a pas fait Audrey Tautou, par exemple. Nous ne sommes pas allés voir les portraits d'Audrey Tautou, on vous le dit.
Mais il y a toujours, on a vu des expos aussi qui sont plus axés sur l'art contemporain, où la photo est un prétexte, etc. Il y a pas mal de choses là-dessus. Mais il y a aussi, quelquefois, des expos qui sont quand même très politiques. Alors, même si, la photographe chilienne que tu as citée tout à l'heure, c'est quand même pas mal politique, ce qu'elle fait.
C'est une photo engagée, moi, je préfère ce terme-là.
Mais là, on a, quelques expos qui sont très très politiques. La première, c'est celle de Mathieu Asselin sur Monsanto, ça s'appelle une enquête photographique. Donc il attaque directement la multinationale. Hein. Il va sur les lieux, il prend des photos des gens ou des lieux qui ont été impactés négativement, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de positif, par la multinationale Monsanto. Donc on se retrouve avec d'abord pas mal de lieux aux États-Unis d'Amérique, quand Monsanto était, avant que fasse des OGM et des choses comme ça, était une entreprise chimique. Hein. Ils ont fabriqué de l'agent orange. L'agent orange, c'était ce qui était balancé dans la guerre du Vietnam, qui tue encore aujourd'hui des gens. Encore au Vietnam, il y a des zones polluées de l'agent orange, par l'agent orange. Et là, on a des photos de gens qui ont des malformations, parce que c'est essentiellement ça, avec des gens qui n'ont pas de bras, pas de pieds. Enfin, il y a des photos qui sont très belles, mais
sur les enfants, c'est très dur quand même à regarder toujours les
choses qui sont pas jolies.
Quand on sait que c'est pas la nature qui s'est mal faite, que c'est la faute du multinational.
Donc il y a ça. Après il y a aussi ce thème-là, il est un peu glauque. Hein. Après il y a les traces de Monsanto dans les zones américaines, dans les États américains où ils ont fait de la chimie, ils ont laissé tout pourrir. Donc là on a effectivement des lieux abandonnés, des gens. Et il y a une ville qui s'appelait Monsanto City, c'était son deuxième nom, où il y a presque plus personne, mais tout le monde était malade. Il y en a quelques personnes qui restent, mais tout le monde a eu un cancer. Enfin bon voilà, des choses atroces. Et puis il termine avec en mettant en avant quelques paysans qui ont été en procès contre Monsanto, qui avaient accepté les OGM, qui les ont arrêtés, mais qui après, quand ils ont replanté et qui récupèrent les graines de ce qu'ils ont planté, il y a toujours une ou deux graines de Monsanto qui traînent, et ils sont poursuivis par la compagnie Monsanto, parce qu'ils n'ont pas le droit de replanter, que la graine appartient à Monsanto même 15 générations plus tard, etc. Et il y a aussi donc la face moderne de Monsanto, qui est la privatisation du vivant, avec les OGM et le maïs qu'on connaît bien, ou le blé, et puis le glyphosate, principal empoisonneur aujourd'hui de la nature en tant que désherbant. Et les photos sont très très belles, et puis chaque fois il y a une explication, et c'est un truc très très politique. C'est très courageux, parce que je pense qu'il va avoir droit à Monsanto sur le dos, parce qu'ils font des procès.
Ça se trouve, c'est déjà fait. Hein.
Ça se trouve, c'est déjà fait. Mais voilà, c'est une très belle expo, du coup 100% politique. Hein.
Oui, alors après c'est vrai que ça s'appelle vraiment une enquête photographique, parce que les photos sont là, mais c'est surtout le propos qui est important. Moi j'aime beaucoup la première partie qui nous met tout de suite dans l'ambiance avec ses anciennes publicités, où c'est donc les vieilles publicités des États-Unis d'Amérique, des pages qu'il y avait dans les magazines qui ont été mises sous cadre.
Monsanto, c'est la vie. Monsanto nous nourrit.
C'est magnifique. Sans Monsanto, vos goûts sont moins bons. Sans Monsanto, votre vie est moins belle, et ainsi de suite.
Les vêtements sont moins bien.
Et voilà, et c'est une propagande de l'époque, alors qu'à l'époque, on savait déjà que ces produits étaient dangereux, et que Monsanto le savait très bien et continuait à vendre sa merde. Oui. Donc une très belle expo, et tu as dit où c'était ?
Non.
C'est au magasin électrique aussi.
Oui. Et ça se termine avec horrible, des photos de fœtus mal formés à cause de l'agent orange.
Oui. Qui sont emmagasinés par l'hôpital. Hein.
Voilà, c'est pas dans les bocaux, les a... là, comme on voit dans les films d'horreur un peu, c'est exactement ça. Sauf que c'est des vrais.
En grand format. Histoire de vous mettre dans
l'ambiance. Oui, en plus, son grand format, c'est absolument atroce. Alors, autre photo sur Fukushima, on a parlé tout à l'heure.
C'est intéressant parce que c'est une partie sur les jeunes.
Oui, donc c'est Carlos Ayesta et Guillaume Bression qui, juste après le tremblement de terre et le tsunami de 2011 et l'accident nucléaire de Fukushima, sont retournés pour faire des reportages photos sur les gens qui ont vécu la catastrophe. Et en fait, on les voit mis en scène quand ils reviennent dans leur maison ou dans leur atelier ou là où ils ont vécu, et qui racontent, ils expliquent, bah là on faisait ça, là on faisait ça. Les photos sont très belles aussi, et puis surtout ils disent tous qu'ils soit ils veulent pas revenir, soit ils reviendront pas, parce que il y a très peu de gens qui reviennent et il y aura pas assez de travail, et puis il y a que les vieux qui reviennent. Enfin, il y a plein comme ça de choses disséminées dans les commentaires dans les explications, mais c'est les commentaires en fait des personnes qui sont prises en photo au sein de ces appartements ravagés, détruits. Hein, il y a une maison qui est ravagée parce que voilà, la nature s'est beaucoup redéveloppée, et notamment des sangliers qui sont redéveloppés, qui sont plus chassés, plus tués, et qui viennent saccager tout ce qui reste. Déjà, c'était bien abîmé. Enfin, voilà, c'est une belle expo sur l'impact d'un accident nucléaire et du tsunami et du tremblement de terre aussi. Mais c'est l'accident nucléaire qui fait que c'est resté en état, puisque après un tsunami, dans un pays ultra riche comme le Japon, c'est reconstruit tout de suite. D'ailleurs, tout ce qu'ils ont pu enlever, ils l'ont enlevé là au Japon. Sauf que, bah oui, il y a la partie radioactive, on peut pas y aller. Les gens ont le droit d'y aller un quart d'heure, pas plus, de prendre deux objets qui ont vérifié au compteur GGR, pour voir si on peut le ramener, c'est pas trop radioactif, etc. Enfin, voilà, il y a toutes ces histoires-là de gens qui ont tout perdu du jour au lendemain à cause d'une centrale nucléaire.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Les photos sont très très belles. Et puis, je trouve que d'avoir remis ces habitants dans leur lieu détruit, hein, les asseoir là où ils avaient l'habitude de s'asseoir, c'est pas du tout du voyeurisme. C'est pas du tout non plus de la mise en scène qui se verrait. On a juste des regards parfois désespérés de gens qui vivaient là et se retrouvent au milieu de leur ancien chez eux, leur ancien travail, leur ancien magasin. Et l'exposition est très très belle. Et quand je disais jeunes, je vais plutôt préciser correctement les choses, c'est que c'est dans la série Émergence, c'est-à-dire des jeunes photographes qui sont en devenir et qui sont portés par des galeries.
Voilà, et ben, les gens ont parlé de deux autres. Autour de la Turquie, puisqu'il y a deux petites expos de deux jeunes émergents. Donc il y en a un qui s'appelle Norman Behrendt, qui doit être allemand, et l'autre qui s'appelle Guy Martin, qui est anglais.
Tout à fait.
Alors le premier, ça s'appelle Brave New Turkey. Il va en Turquie, il veut montrer ce qui est en train de changer, et il prend un biais qui est, il y a beaucoup de construction, hein, les banlieues sont beaucoup développées, on construit des tonnes de buildings partout pour loger la population qui se développe beaucoup en Turquie. Et lui, il se dit, je ne vais pas prendre ces buildings, je vais prendre l'autre face, c'est l'islamisation importante de la Turquie, et il prend en photo les constructions de mosquées.
Qui sont incroyablement nombreuses.
Oui, oui, c'est un truc énorme, hein, le boom des mosquées, qui sont pas toujours d'ailleurs forcément utilisées, mais on les construit, l'État les construit. Il faut absolument que l'islam soit visible tout le temps, etc. Et ces photos, c'est juste ça, c'est juste ces photos de ces mosquées en construction, et c'est hyper impressionnant. Alors après, il y a les chiffres et tout, on se dit, bah oui, il y a un gros souci du retour du religieux en Turquie, ça, on le savait déjà, hein, on a Erdogan, hein, on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà. Voilà, ces photos sont très belles de ces constructions, et on se dit, bah ouais, il y a effectivement, c'est la nouvelle Turquie, et c'est voilà, la Turquie laïque qu'on a connue, démocratique et laïque, c'est la fin. Maintenant, ça va être plus démocratique et c'est plus laïque. Ça.
Et puis, ce qui est toujours impressionnant quand la religion s'impose aux habitants, c'est qu'on a quand même des constructions qui sont parfois moches, mais parfois elles sont très belles, et plus belles que les buildings. Enfin, c'est les buildings. T'es gentil d'appeler ça comme ça.
C'est des cages à lapins,
Que les sortes d'HLM qui sont en train d'être construits, vraiment moches et identiques un petit peu de partout. Voilà.
Oui. Et le deuxième, alors c'est encore plus politique. C'est Guy Martin, là, ça s'appelle The Parallel State. Alors, il part de cette expression, l'état parallèle, qui concerne plutôt ce que faisait notamment l'OTAN dans les Turquies des années 50, des choses un peu cachées. On appelait ça, voilà, l'état parallèle. C'est très connu en Turquie. Alors, l'expression n'est pas utilisée en France, par exemple, mais elle est beaucoup utilisée dans certains pays, et notamment en Turquie, pour montrer ce que peut faire le pouvoir de manière un petit peu insidieuse. Et lui, ce qu'il fait, c'est que, donc, il va photographier des gens, des choses, des conséquences liées aux événements récents en Turquie, et notamment à la tentative de coup d'État de l'année dernière, de juillet dernier, l'année dernière, et surtout de la répression qui se met en place. Et donc là, à chaque fois, les photos sont assez anodines, mais en dessous, on a le commentaire et elles expliquent ce qui se passe. Et on a, voilà, des explications sur... Alors, il y a bien sûr ce qui s'est passé sur la place Taksim, les résistances, les arrestations, tout ça, et puis tout ce que met en place le régime nouvellement totalitaire turc. Donc c'est, voilà, je trouve que c'est une belle expo qui marche plus sur les commentaires que sur les photos elles-mêmes, qui sont qu'un prétexte pour parler de la disparition de la démocratie en Turquie, quoi.
Ouais, c'était très chouette aussi. D'ailleurs, dans cette série Émergence, moi, j'ai bien aimé l'exposition, pas politique pour dessous, mais qui est très très belle et très esthétique. C'est l'expo de Céline Yu. Je sais pas si tu te souviens,
ouais,
qui s'appelle I'm Everywhere.
Alors, c'est du Photoshop, hein.
Ouais, mais c'est très bien fait parce qu'elle arrive à chaque fois. Donc, elle s'intègre dans les photos
historiques,
que ce soit de stars du cinéma ou
de
politique aussi, hein, puisqu'elle est avec Kennedy.
Juste avant qu'il se fasse assassiner.
Quand il est encore en train de sourire, hein, elle n'a pas été dans une version macabre. Par exemple, oui, elle va se mettre... Alors, donc, elle est habillée comme la personne sur la photo, enfin dans le même style.
La même coiffure.
Elle a les mêmes gestes voilà, s'il faut rigoler. Et c'est très, très bien incorporé. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très bien fait. Et c'est intéressant, ce travail-là aussi, je trouve esthétique. Moi, j'ai trouvé ça assez chouette, son travail à Céline Liu.
Voilà, puis il y a une expo assez importante sur les photographies iraniennes.
Oui, qui s'appelle, je vais vous redonner
Iran
ça,
38.
Iran année 38. C'est à l'église Sainte-Anne. Et comme l'année dernière, on avait eu une exposition sur la photographie japonaise qui mêlait à la fois la jeune et l'ancienne génération. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on a là une photographie des émergents, comme on pourrait dire, et puis une photographie plus ancienne qui, elle, va être plus engagée et plus politique parce qu'on va revenir à une période du Shah.
Voilà, le coup d'État de Mossadegh,
voilà.
La dictature islamique qui se met en place, où d'un seul coup, dans les photos, toutes les femmes sont voilées. Enfin, il y a presque plus de femmes d'ailleurs, parce qu'elles n'ont plus le droit de sortir, pas le droit d'aller manifester. Et il y a plein d'autres choses autour de l'Iran, ce qui a pu se passer ces 50 dernières années, en fait. Hein. Donc, il y a un peu de tout, il y a beaucoup quand même de noir et blanc. Et ça donne une vision, alors c'est un peu disparate,
hein,
c'est le problème du truc, mais ça donne une bonne image aussi, un peu, enfin, une bonne image, pas, mais une certaine image de l'évolution.
Après, on vous a pas parlé, il y a plein d'autres choses, hein, à découvrir. Ouais. Mais nous, c'est ce que on a vraiment beaucoup aimé, c'est on vous parle de ça. Voilà.
Donc, les expos photos à Arles, c'est tous les ans, ça commence début juillet.
Et c'est jusqu'au 30 septembre. Voilà. C'est juste ça, jusqu'au 30 septembre cette année. 24 septembre, 24 septembre, excusez-moi, je cherchais exactement la date. Alors, c'est pas donné, mais franchement, par rapport à un concert, c'est pas tant que ça. Il faut se le dire.
Non, mais par rapport au prix des concerts aujourd'hui, c'est pas tant que ça.
Par exemple, pour un achat, pour une journée, avec un achat en ligne, c'est 29 euros. Sur place, c'est 33 euros. Un pass, c'est 40 euros si vous l'achetez sur place. Donc oui, c'est un certain coût, je vous l'accorde, mais en même temps c'est aussi un travail assez gigantesque,
ouais,
il faut le dire, dans cette ville.
Il y a une quinzaine de lieux d'expo.
Voilà, donc effectivement c'est un investissement, on va pas vous le cacher, surtout si vous avez des petits moyens, mais sinon c'est quand même à voir au moins une fois dans sa vie,
ouais.
D'aller aux rencontres d'art. Et cette année, il y a quand même des très très belles choses. J'ai commencé avec Paz et Razouriz, mais ça restera quand même ma découverte de cette année.
Voilà, il est 20h11, on a un petit peu dépassé, mais nous n'avons pas d'émission derrière nous. On vous souhaite un bon été.
Ben ouais, il est déjà bien entamé, hein, et en même temps. Hein.
Tu veux dire qu'on a chaud ?
Ouais, et puis bon, l'été, tu sais, ça commence bien plus tôt dans la saison quand même.
Le 21 juin même.
Voilà.
Dire que ça commençait le 21 juin, mais peut-être que c'est une légende urbaine.
C'est vrai qu'on aurait pu juste dire que quand même le 20 juillet 2001, Carlo Giuliani a été assassiné à Gênes par la police. Je vous rappelle ouais. qu'on lui a tiré dessus, on lui a roulé dessus plusieurs fois. Hein. C'est un policier qui, avec sa voiture, sa Jeep. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, mais moi...
Donc c'était l'anti-G8 de... Ouais. Enfin, le G8 de Gênes, avec les militants voilà. anti-G8.
Qui, je vous rappelle, le G8 où il y a des gens qui se sont fait torturer, massacrer.
Alors, il y a eu beaucoup de témoignages en Italie. Hein. Ils les ont humiliés, ouais. mis à poil, les ont obligés à chanter des chants fascistes. Enfin, il y a eu des choses absolument atroces, comme quoi la police italienne est restée quand même plutôt très très proche de l'extrême droite.
Et puis, juste parce que quand même, il faut s'ouvrir à la vie, même si c'est un décès, il faut revoir tous les films de Romero. Il est mort dimanche dernier.
Ouais, il faut revoir tout Cosmos 99, parce que Martin Landau est mort aussi.
Chacun sa culture, écoute. Mais voilà, vous pouvez,
moi, j'ai les deux.
Vous pouvez bouffer, sans jeu de mots, du zombie tout l'été, en fait.
Ouais. Bah voilà, on se retrouve normalement à la rentrée.
Bah ouais.
Et passez un bon été. On vous souhaite des vacances. Sinon, on vous souhaite bon courage. Mm. Et puis, restez à l'écoute de la plus rebelle des radios.
Parce qu'il y a des émissions qui sont là, hein, tout l'été. Et n'oubliez
même,
pas surtout.
Et même quand il n'y a pas d'émission, il y a les bandes continues les plus variées de l'histoire de l'univers.
Oh, pas même qu'elles sont rebelles des fois.
Ouais.
Ciao, ciao.